Je lirai donc un seul texte dans la Bible, le texte de l'Ancien Testament de ce jour, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Mais avant cela, je vous invite à prier. Seigneur, pour que ta parole puisse être à nouveau entendue, écoutée, comprise, reçue et mise en pratique, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Parle-nous à nouveau ce matin. Fais-nous la grâce de nous redire une fois de plus ton amour et ta venue parmi nous. Amen. Ésaïe 2, donc, les premiers versets. Voici le message qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a reçu dans une vision au sujet du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Un jour dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur sera sûrement la plus haute des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors tous les peuples viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront en route et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, allons au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. » En effet, l'enseignement du Seigneur vient de Sion. Oui, sa parole nous arrive de Jérusalem. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour les peuples nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'attaquera plus un autre pays. Les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. En route, famille de Jacob, marchons dans la lumière du Seigneur. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le Messie n'était tout simplement pas venu dans la Genèse, à l'aube de l'histoire biblique? Moi, je verrais assez bien le récit de Noël juste après celui de la chute, juste après cette sombre histoire de péché originel, la réparation, autrement dit, juste après la casse. Pourquoi ces milliers de pages, pourquoi attendre si longtemps entre la chute et Noël? Pourquoi toutes ces pages? Pourquoi tous ces siècles d'attente? Pourquoi ces rebondissements de génération en génération? Pourquoi a-t-il fallu attendre tous ces millénaires? On pourrait se désintéresser de la question en se disant qu'elle n'est plus d'actualité aujourd'hui puisque le Christ est venu. Mais ce serait oublier un peu rapidement que nous vivons toujours dans l'attente. Le Messie est venu, d'accord, mais il n'a pas encore transformé toutes nos épées en socs de charrue ni toutes les lances en faucilles, que je sache. Tous les problèmes de notre monde n'en sont pas pour autant résolus. Et on attend toujours qu'ils le soient un jour. La promesse d'Ésaïe n'est pas encore réalisée, il faut le reconnaître. Nous vivons donc toujours, comme à l'époque d'Ésaïe, dans l'espérance. Et cette période de l'Avent, où pendant un mois, nous nous replongeons dans la spiritualité de l'attente, où nous revivons d'une certaine manière l'attente des prophètes, est en ce sens pleine de valeur et de signification. C'est parce que nous voulons nous replonger dans cette attente chaque année avant Noël, en communion avec toutes les églises du monde, que nous marquons régulièrement cette période de l'Avent. C'est quand même pas rien. Nous nous replongeons dans cette attente un mois par an, 4 dimanches par an. L'attente d'un événement heureux n'est pas seulement un moment toujours trop long qui nous sépare de cet événement. Bien sûr, ça nous apparaît comme ça, mais ça n'est pas que ça. Un objet attendu reçoit de son attente, de la préparation à le recevoir, une grande partie de sa valeur. Et il n'y a qu'à observer combien il est important pour les enfants d'attendre le jouet du Père Noël. Et le principe ne se limite pas aux enfants. Quand on a travaillé pendant plusieurs années pour acquérir quelque chose d'important, une maison ou que sais-je d'autre, celle-ci aura beaucoup plus de valeur que s'il suffit de faire un emprunt rapidement dans une banque pour l'obtenir. Et c'était aussi dans la tradition le cas du mariage que l'on devait attendre pendant de longues années de fiançailles, souvent. Tout ça pour que l'objet attendu reçoive de l'attente toute une partie de sa valeur. Et Ésaïe savait que l'attente du Messie était voulue de Dieu, et donc il invite son peuple à vivre cette attente non pas comme quelque chose de négatif, mais comme un temps riche et positif. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous croyons, et encore une fois, c'est pour ça que nous marquons ce temps de l'Avent, on comprend mieux le sens de Noël si, avant, on est entré avec les prophètes dans ce temps d'attente et d'espérance. Et d'ailleurs, chaque fois que nous prions, nous sommes dans un état d'attente, d'attente de la réponse, et plus particulièrement chaque fois que nous partageons la Sainte Cène, ou dans la liturgie de la Sainte Cène, nous prions toujours « Viens, Seigneur Jésus, viens, Esprit de Dieu ». Sous-entendu, ben, tu n'es pas là, mais viens. S'il était là physiquement, on ne lui dirait pas de venir. L'attente a une grande place dans la piété, dans la spiritualité de l'Église, et cela depuis les débuts de l'histoire de l'Église. Et pourtant, il l'a, mais on l'attend et on lui demande de venir. Cette attente est nécessaire pour creuser en nous la place de Dieu qui a toujours voulu, dans l'histoire, s'inscrire en creux dans une attente non comblée. Attendre, en effet, nous permet de comprendre vraiment ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes. Le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance a dû cheminer plusieurs siècles dans l'attente afin de découvrir cette vérité. Et encore, ça n'allait pas de soi quand Jésus est venu. Au début, vous comprenez, l'attente était celle d'un Dieu guerrier, d'un Dieu magicien, d'un Dieu pouvoir. Elle était l'attente d'un Messie supposé répondre aux besoins premiers du peuple, c'est-à-dire tout simplement à chasser les ennemis, à agrandir le territoire et conduire vers une période de prospérité économique. Puis, petit à petit, au fil des révélations prophétiques, cette attente est devenue celle du serviteur souffrant d'Ésaïe. Elle est devenue celle d'une présence, celle d'un Dieu qui peut-être n'était pas comme on l'avait imaginé au début. Attente d'une communion nouvelle avec un Dieu proche et amour. Les prophètes comprennent petit à petit et annoncent qu'au fond, l'objet de l'attente, finalement, c'est Dieu lui-même. Le reste n'en était que la pâle expression. C'est un peu comme, vous savez, un enfant qui est en manque d'affection et qui demande un jouet, puis dès qu'on le lui a donné, si on fait l'erreur de lui donner tout de suite, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il en demande un autre. Parce que pour arriver à faire comprendre à ses parents que ce qu'il veut, c'est leur amour, c'est leur présence, c'est que l'objet, en fait, il s'en fiche. Mais c'est juste un signe. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, au-delà de ce qu'il demande, son vrai besoin, son cri, c'est « aimez-moi, donnez-moi de l'affection ». Et c'est un processus que tous les parents, et même grands-parents, connaissent assez bien et que nos psychologues se sont évertués à décrire chacun à sa manière. De la même manière, l'attente était donné au peuple de Dieu pour lui permettre de comprendre que ce dont il avait vraiment besoin, c'était pas que Dieu fasse ceci ou cela, c'était tout simplement la présence de son Dieu. Et il en est de même en ce qui concerne notre attente de Noël. Ce temps qui précède Noël, où nous allons fêter sa présence parmi nous, nous est donné afin que nous laissions creuser en nos existences ce désir, cette place que Dieu vient à Noël habiter. Nous avons besoin de la maturation de l'attente pour pouvoir recevoir un Dieu petit enfant. Personne ne recherche ni n'attend naturellement un tel Dieu. D'une attente, d'une recherche de facilité, de pouvoir, de guérison, de solution à des problèmes, d'un Dieu qui répondrait à nos demandes, il nous faut passer à l'attente d'un Dieu petit enfant qui n'apporte que sa présence. Et ça ne se fait pas tout seul. Rien n'est naturel là-dedans. Bien sûr, nous pouvons aussi attendre beaucoup de lui, mais l'important, ce sera lui, sa personne, sa présence. Le reste deviendra un en plus, finalement secondaire. Et c'est ainsi que l'attente du prophète Ésaïe, attente de tout un peuple, nous entraîne dans un processus qui nous permettra à nous aussi de pouvoir mieux recevoir, d'apprendre à recevoir celui qui vient, aujourd'hui comme hier. Lorsqu'enfin il viendra habiter la place en nous creusée par cette attente, alors tout basculera, j'allais dire là presque naturellement, comme tout a basculé pour Marie qui, dans son chant, disait, je le recite, « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Pour recevoir, pour comprendre un tel renversement, un Dieu qui se révèle à un enfant, il faut que la maturation de l'attente puisse aller à son terme. Personne ne peut accepter comme ça que Dieu soit du côté des petits. C'est pas du tout évident que Dieu soit du côté des petits. On l'a toujours mis du côté des grands et nombreux sont ceux qui, dans notre monde, y compris chez les protestants, aujourd'hui le font à nouveau. Mettre Dieu du côté des puissants. Personne ne peut recevoir un Dieu qui a abandonné sa puissance. Personne ne peut accepter si facilement un Dieu inscrit dans la finitude, un Dieu qui vient naître et mourir. Personne ne peut accepter que la parole se soit faite chair, pour reprendre les mots de l'Évangile. Personne ne peut accepter cela sans que l'attente ait creusé en lui ce désir qui tourne vers Dieu. Mais pour celui qui a fait ce chemin, alors, miraculeusement, et c'est toujours un miracle, c'est vrai, l'attente se transforme en espérance vivante qu'un jour, les épées seront des socs de charrue et les lances des faucilles. Espérance que de l'Irak à la Colombie, du Mali à la Palestine, de Hong Kong en Russie et partout ailleurs, un petit enfant sera reconnu comme le prince de la paix. Alors, la prophétie sera pleinement accomplie.